Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 16, les versets 1 à 11. Apocalypse, chapitre 16, versets 1 à 11. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Il devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le nom du ciel, le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Je voulais vous asseoir. Alors, donné comme titre aujourd'hui, c'est pas les sept anges déversent les cinq premières coupes. Pourquoi je l'ai coupé en deux? On aurait pu faire tout le chapitre d'un coup, mais c'est parce qu'ils ont des caractéristiques communes. Les cinq premières coupes ont des caractéristiques communes, puis les deux dernières ont des caractéristiques communes aussi. Alors, je pense que c'est une bonne idée de les grouper. Alors, le titre que j'ai donné, c'est « Les sept anges déversent les cinq premières coupes de la colère de Dieu ». Alors, je vois une division dans le texte pour qu'on puisse l'analyser et l'exposer. Je vois trois idées. La colère de Dieu par les cinq plaies qui est ordonnée. Parce que le verset 1 nous dit que c'est une voix qui sort du temple, qui commande. Ordonner, ça veut dire commander. La deuxième proposition qu'on va regarder, la colère de Dieu par les cinq plaies est orchestrée. Alors, quand on entend une orchestre symphonique, par exemple, le chef de la musique, il fait rentrer les musiciens dans un certain ordre. Orchestrée, ça veut dire que les plaies que le Seigneur ordonne que les anges déversent sur les hommes arrivent dans un certain ordre. La terre, la mer, les fleuves, et on voit qu'il y a de l'ordre là-dedans. Alors, orchestrer, ça veut dire que c'est le Seigneur qui commande à chaque ange de faire un certain travail qui est bien particulier. Et la troisième idée, c'est la colère de Dieu par les cinq plaies qui est orientée. Pourquoi les deux derniers versets sont différents de l'orchestration? C'est parce que la colère de Dieu se déverse sur le royaume de l'Antichrist, son trône. Le trône, ça veut dire l'endroit où il exerce son autorité, et c'est là, à la carte orientée, ça veut dire qu'il va commencer par les hommes, et la cinquième, ça va être sur son trône. Le royaume du malin lui-même, le royaume de l'Antichrist qui va avoir pris des années à construire, son royaume politique, son royaume religieux, son royaume d'adoration, d'idolâtrie. Et c'est là-dessus qui va permettre que, imaginez-vous, Il se prétend la lumière, même son nom Lucifer veut dire porteur de lumière. Et le Seigneur va faire en sorte que la supposée lumière qu'il a apportée sur la terre, en réalité, c'est pas de la lumière, c'est des ténèbres. Autrement dit, il va faire en sorte que les serviteurs de Satan, les grands chefs qui vont, Satan lui-même et ses serviteurs, son royaume va devenir ténébreux. Autrement dit, il n'y aura plus aucune efficacité là-dedans. On va voir tantôt la signification de tout ça. Je vous avais dit dans le sermon précédent que les chapitres 15 et 16, c'est deux chapitres, un peu comme 13 et 14, 15 et 16 sont soudés ensemble, c'est deux chapitres qui vont ensemble. Le chapitre 15 était une introduction au malheur, au fléau, aux coupes que le Seigneur était pour envoyer. Et là, il nous présente les cinq premières. On va voir que c'est pas vraiment, c'est très, très, ça va être très difficile pour les pécheurs. Autrement dit, le royaume, si on veut se replacer un petit peu dans les circonstances, Satan va avoir réussi, parce qu'il a dit qu'il a vaincu les saints dans des chapitres précédents, et Satan va avoir réussi à établir son royaume sur la terre. Alors, on est dans cette circonstance-là. Et là, le Seigneur va commencer à envoyer ses fléaux, un en arrière de l'autre, et ça va tout s'abattre sur les inconvertis, sur les endurcis dans le péché. Et plus ça va aller, plus ça va être difficile pour eux. Alors, on va voir que les deux chapitres 15, c'est à l'introduction, chapitre 16, on va voir la démonstration que le chapitre 15, que le chapitre 16, c'est-à-dire, est vraiment la description de la colère divine. Et on a les cinq premières. Alors, on avait dit que, dans la leçon précédente, que toute l'ère chrétienne était dans cette période-là. Toute l'ère chrétienne, mais avec une augmentation vers la fin. Autrement dit, on ne peut pas lire ça. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que si vous liriez tous les commentaires qui existent sur l'Apocalypse, il y a toute une série qui sont dans la perspective dispensationaliste, et eux, ils disent, moi je pense que c'est une fausse interprétation, qu'à partir du chapitre 4, l'Église est enlevée, et tout ce qui est décrit après le chapitre 4, c'est des choses qui ne s'appliquent pas à l'Église. C'est des choses que, c'est comme ils nient que l'Église va pouvoir traverser ces choses-là. Nous, on croit que c'est pas vrai, et que l'Église va traverser ces périodes-là. C'est pas tout à fait la même chose. Pour ça, je vous dis que, dans le fond, ceux qui disent, ah, ben à partir du chapitre 4, ça s'adresse juste aux pécheurs que l'Église va avoir été enlevée, ben c'est sûr qu'ils ne se sentiront pas concernés par tout ce qui est décrit. Alors, c'est important de comprendre que c'est pas le cas. Et, ceux qui ont les notes, vous allez voir dans la première page, je parle de l'utilisation analogique des dix plaies d'Égypte. Autrement dit, on est en train de regarder le chapitre 16 et on va voir que qu'est-ce que le Seigneur envoie comme punition aux hommes. Ça a un lien direct avec ce que Dieu a déjà fait dans le passé, dans l'Exode par exemple. Le chapitre des plaies d'Égypte, des dix plaies d'Égypte. C'est important de faire le lien parce que c'est presque impossible que vous alliez voir un commentaire sur l'Apocalypse ou qu'à chaque plaie que Dieu envoie par l'intermédiaire des anges, qu'on ne voit pas un lien avec ce qui est décrit ailleurs dans les plaies. Alors, je vous lisais à la page 2, ceux qui ont les notes, là, vous avez les 10 plaies d'Égypte, j'ai fait un tableau, pris la peine d'aller rechercher les 10 plaies d'Égypte, et de mettre les références à côté. Donc, à côté des 10 plaies d'Égypte, vous avez les endroits où, dans le livre de l'Exode, on décrit en quoi consistait. C'est très important de faire le lien. Pourquoi? Parce que le livre de l'Exode est en train de parler de quand Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Tandis qu'on est dans l'Apocalypse, Dieu ne sort plus son peuple, les Juifs, de l'Égypte, le pays. Mais maintenant, Dieu sort son peuple du monde. Et il utilise des images qui sont similaires à celle qui est utilisée dans le livre de l'Exode pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc, on a j'ai marqué les 10 plaies d'Égypte avec les références. Et on va voir qu'avec le temps, quand on va arriver vis-à-vis de les choses changées en sang, on va voir que ça a tous des liens avec les 10 plaies d'Égypte. C'est important. On pourrait aller beaucoup plus loin là-dedans parce que chaque commentaire utilise des fois des commentaires en référence avec Exode, mais on ne rentrera pas dans les détails. Mais une chose importante, qui est très importante, parce que là, juste dans les commentaires, je n'utilise à peu près 3 ou 4. Je ne veux pas en utiliser trop parce que ça il vient un temps là que tu ne sais plus dans quelle direction tu t'en vas. Mais 3 ou 4, c'est déjà suffisant. J'ai pris des bons. Joe Beakey, c'est pas un 2 de pique, je vous le garantis, là. Il dirige une grosse école américaine, une école biblique. Oxymon non plus, c'est pas un... En tout cas, j'utilise des conservateurs reconnus, réformés aussi. Alors, quelque part, ça donne une cohérence à ce qu'on étudie. Il y a quelque chose qui est très important. Parce que quand vous arrivez sur ces passages-là, vous allez voir, si vous allez étudier des commentaires qui parlent de l'Apocalypse, il y a comme 2 grandes écoles. Il y a une école qui dit que ce passage-là, quand il parle de la mer, des fleuves, des rivières, qu'on parle de quelque chose de littéral. Autrement dit, on parle de la vraie mer. On parle des vrais fleuves. On ne parle pas de symboles. Parce qu'au cours de l'histoire, ces passages-là ont été interprétés, je vous l'ai dit, 2 écoles. Il y a une école qui fait de ce qu'on appelle l'allégorisation ou de... Tout devient symbolique. Lui, l'auteur, sa position, c'est la suivante. On ne dit pas que quelque chose est symbolique, à moins que le texte ne le dise, et on ne dit pas que quelque chose est littéral, à moins que le texte nous en fasse à quelque part une mention. Je trouve que sa position est très intelligente. Ce qui est difficile à interpréter dans le livre de l'Apocalypse, c'est justement le fait que le littéralisme et le symbolique se côtoient. Et le problème vient du fait, c'est que, qu'est-ce qui est symbolique, puis qu'est-ce qui est littéral? Alors lui, il a voulu trancher la question, oxymon. Et il répond à la question. Alors je vous dis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous ne devons pas tomber dans l'ornière de la fausse spiritualisation et de l'allégorisation du texte. Comme pour de nombreuses parties du livre de l'Apocalypse, de même pour cette partie, cela a été fait par beaucoup. Autre phrase, il dit, nous ne devons rien prendre au sens spirituel à moins que le livre ne l'indique clairement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu ne peux pas dire que quelque chose a un sens spirituel à moins que le texte t'autorise à le faire. Alors, il termine à la page 533 en disant, en d'autres termes, nous prenons cette partie, Apocalypse, chapitre 16, versets 1 à 11, comme étant littérale. Quand on parle de la mer, on parle de la mer, l'océan Atlantique, Pacifique, les fleuves, et non pas des symboles. Parce que la mer, souvent, dans les Écritures, est utilisée pour parler de l'ensemble du monde. On en parle de la mer, on pourra vous donner plein d'exemples, là. Alors, faut décider de quoi on parle. On parle-tu du symbole ou on parle du littéral? Lui a décidé que c'était littéral. Puis, il y a plusieurs raisons. Si on veut aller dans le livre, là, ben vous allez dans son livre, il va tout vous expliquer pourquoi il choisit ça. Puis, c'est tout plein de bon sens. Alors, il termine ses raisons en disant... Il explique la signification du passage dans son ensemble. Il dit, par conséquent, nous arrivons à la conclusion que les fléaux sont des fléaux affectant la nature dans ses diverses sphères, qu'ils sont universels dans leur caractère, ne laissant aucune exception, et que seuls les adorateurs de la bête sont troublés par eux. Cela indique également que ces coupes sont versées presque à la toute fin des temps. C'est parce que si on se met à donner des symboles un peu arbitrairement, autrement dit. Oh, la mer, ça veut dire telle affaire. Puis telle autre affaire, ça veut dire, oh, ça c'est la réforme, quand la réforme est arrivée. T'embarques sur un terrain dangereux, autrement dit. Lui, il dit, faisons attention, quand le texte ne t'autorise pas à dire que c'est de nature spirituelle. Par exemple, quand on parlait des dragons, je vais te donner un exemple. Quand on parlait des dragons qui sortent de la mer, on savait très bien que le texte nous autorise à le voir comme étant symbolique. Des fois, c'est clair, tu sais, ça peut pas être d'autre chose que symbolique. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire, ça, vous l'utiliserez chez vous. J'ai voulu, parce que les auteurs en parlent presque tous, de nous faut voir le parallélisme qui existe entre les trois affaires de l'Apocalypse. On sait que ça commence par les sceaux. Hein? Dieu a un livre dans les mains, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Qui est digne d'en ouvrir le sceau? » Et le seul qui s'avance, c'est Christ, parce que c'est lui qui est le seul digne d'ouvrir les sceaux. Il y a un parallèle qui se fait entre les sceaux, les trompettes et les coupes de la colère de Dieu. C'est important qu'on les voit parce qu'il y a quelque chose... Pourquoi c'est important qu'on le voit? Parce qu'il y a quelque chose d'important. Regardez la colonne du milieu, ceux qui l'ont, les feuilles. Là. Alors, vous avez les cinq premiers sceaux. Il y a un chiffre qui est à regarder là-dedans. C'est le chiffre le quart. Autrement dit, quand Dieu envoyait les sceaux, il disait que le quart de la population mondiale serait affecté. Quand vous regardez la colonne du milieu, les cinq premières trompettes, y a-t-il un chiffre que vous voyez là, qui ressort?
Un tiers!
Donc, le quart, c'est quoi en pourcentage? 25%. Le tiers, c'est combien? 33. Donc, à quelque part, il faut voir que dans les... Pourquoi on prend ça et on les met côte à côte? C'est pour voir qu'il y a une progression des coupes, c'est-à-dire des sceaux vers les trompettes et ensuite vers les coupes. Et si vous regardez la colonne de droite, qui est les cinq premières coupes, là, ça l'affecte quel pourcentage?
Tout le monde,
100%. Alors, le Seigneur est en train de dire que plus on s'approchait de la fin, plus les jugements qu'il va envoyer n'affecteront pas juste le quart, le tiers, ça va être tout le monde, sans exception, riche, pauvre, puissant, pas puissant. Très important de saisir ça. Alors, quand j'ai marqué dans la colonne de droite, l'ulcère malin est dangereux, tout le monde. La mer qui devient comme le sang d'un mort, pour tout le monde. Les rivières et les sources d'eau changées en sang, pour tout le monde. Les hommes brûlés par la grande chaleur du soleil, pour tout le monde. Et ensuite, le trône de la bête qui devient ténébreux. Autrement dit, non seulement les dirigeants de ceux qui travaillent pour Satan vont être complètement... Ça ne marchera plus, les affaires, là. On va voir plus tard, quand on va arriver au verset 10 et 11, on va voir comment le Seigneur peut mettre le désordre dans le royaume de l'Antichrist.
Amen.
OK, on va regarder le verset 1. La colère de Dieu par les cinq plaies qui est ordonnée. Alors, il dit, j'ai entendu une grande voix venant du temple qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Alors, bien entendu, on croit que c'est la voix de Dieu lui-même. C'est Dieu qui commande aux anges. Maintenant est arrivé le temps où moi je juge. Je juge le royaume de l'Antichrist. C'est intéressant, ben, j'ai pris mon dictionnaire Robert. J'ai toujours ça à côté de moi. Je regarde le mot « ordonné ». Le mot ordonné a deux sens. Celui de disposer et de mettre dans un certain ordre et d'arranger. Autrement dit, si vous lisez les versets 2 à 9, vous vous rendez compte que les choses se produisent dans un ordre particulier. Le premier ange, il est fait sur la terre. Le deuxième ange, il est fait sur la mer. Le le troisième ange. Alors, il y a un ordre. Alors, c'est disposé, mettre en ordre, dans un certain ordre, arrangé. Et il y a celui aussi, quand on dit, « Je t'ordonne ». Ordonner, c'est commander. Alors, il y a les deux sens ici. Dieu donne un ordre à ses anges, mais il veut que les choses soient faites dans un certain ordre. Il y a des raisons pour ça. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, quand on fait le lien avec les 10 plaies d'Égypte, on voit certaines choses qui sont intéressantes. Donc, elle est ordonnée par un commandement divin. La voix qui sort du temple est très certainement celle de Dieu lui-même. Il donne un ordre aux 7 anges d'exécuter sa volonté sur la terre. Et, autre chose qu'il faut prendre en considération, parce que le livre de l'Apocalypse, d'une façon particulière, le chiffre 7, si quelqu'un fera une étude juste avec le mot 7 dans les Écritures, tu pourras passer des années à étudier ça, tellement c'est riche. Mais dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 est utilisé d'une façon, qu'on pourrait dire, surabondante. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 a une signification. Ça veut dire, dans le chiffre 7, normalement, ça l'indique la perfection. Quand Dieu va juger, il va juger les hommes de façon parfaite. Il va leur donner, il va utiliser des mots. Tu sais, des fois, on dit « approprié ». Tu sais, si quelqu'un veut punir un orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il l'humilie. Si quelqu'un... Et prenez tous les péchés, là. Peu importe le genre de péché, le Seigneur va utiliser le moyen approprié pour les punir. Alors, le chiffre 7, c'est vraiment la perfection, la plénitude. Pourquoi on dit, là, vers la fin, c'est plus 33%, c'est 100%. C'est la plénitude. C'est la complétude, autrement dit, l'achèvement ultime, l'achèvement irréversible. Et le Seigneur va utiliser des anges, très certainement des anges de très grande puissance, parce que pour aller faire, aller exécuter qu'est-ce que le Seigneur demande, ça prenait que ces anges-là soient revêtus d'une grande puissance. Alors, les anges de Dieu sont des serviteurs très obéissants, très fidèles et très puissants. Une petite différence avec nous autres. Très obéissants. Disons que... Très fidèles, très puissants, mais les anges de Dieu, c'est leur cas. Et ils reçoivent une mission qui est très précise. Agir au moment fixé par le Seigneur dans des endroits désignés. C'est pour ça que là, on parlait d'ordonner. C'est pas les 7, les 5 qui vont déverser tout ça en même temps. Il y a un ordre. Et avec une rigueur qui est particulière, parce que c'est 100%. Et leurs actions des anges reflètent le fait que Dieu agit toujours au bon moment, de la manière appropriée pour des fins sages. Intéressant de noter que quand le Seigneur commence à vouloir déverser ses affaires, c'est le moment où le malin est convaincu que son royaume... Tu sais, tout le monde adorait la bête, tout le monde était la prospérité, et tout d'un coup, pouf, elle va tout tomber comme un château de cartes. Autrement dit, c'était un super de beau château de cartes, mais là, le moment, il dit, il va souffler dessus, ça va tomber. Alors, les versets 2 à 9, il y a plusieurs idées là-dedans. On va y aller graduellement. Il y a l'idée d'orchestrer sagement et démonstrativement. Le Seigneur n'agit pas de même dans un ordre précis, juste il est sage. Alors, si on veut apprécier davantage les actions qui sont commandées par le Seigneur lui-même, nous devons nous rappeler les circonstances spirituel, économique, social, politique et culturel des hommes qui croyaient avoir atteint un âge d'or. N'est-ce pas ce qu'ils vont, quand ils vont arriver à là qu'ils vont établir, l'Antichrist va établir son royaume, les hommes vont dire, enfin, les chrétiens sont plus là, ils vont-tu nous ficher la paix avec leur religion, avec leur Bible? Ils pensent qu'ils vont avoir atteint le bonheur. Ils vont atteindre une certaine richesse, ils vont atteindre, tu sais, une certaine unité aussi, parce que, tu sais, on dit qu'au moment où ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Alors, ils vont penser d'avoir établi une paix mondiale, mais ça va être fragile, tout ça, là, et le Seigneur va leur montrer. Donc, la libération, qu'on pourrait dire entre guillemets, des liens moraux de la Bible, par l'établissement d'une religion mondiale, conçue avec des valeurs pécheresses et des valeurs aveuglées des hommes. Ils vont voir atteindre une certaine prospérité matérielle, une paix sociale et politique, par l'établissement du gouvernement mondial. Et ils vont avoir adopté des loisirs débordants de péché. Alors, ils vont être dans le maximum de du royaume de l'Antichrist. C'est là que le Seigneur commence à agir. Et ça va être dur, mon Dieu. Le grand souverain de l'univers vient manifester avec force sa désapprobation de l'œuvre et du royaume de l'Antichrist et de Satan. Le Seigneur veut les punir du fait d'avoir persécuté les authentiques croyants en Jésus-Christ et d'être plongé dans l'immoralité et l'idolâtrie. Un monde construit sans Dieu mérite d'être détruit. Le Seigneur va utiliser des moyens pour les punir et les priver de leur confort et de leur sécurité. Parce qu'il va être rendu là. La paix dans le monde, le confort, la sécurité. Il n'y a plus personne pour leur dire qu'ils font des péchés. Et ils vont se vautrer dans le mal. Et c'est là que le Seigneur décide d'agir. Par l'envoi de la première plaie. La première plaie, c'est Dieu dit qu'il va les envoyer une maladie. Verset 2. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Qui? Tous ceux qui ont adoré, qui se sont laissés aller à obéir à Satan, à l'établissement du royaume. Tout un ulcère malin. Très intéressant de faire le Seigneur va envoyer des ulcères malins dangereux sur les idolâtres. Et ça correspond, si vous regarderez dans votre liste, là, des plaies d'Égypte, qui est décrit dans Exode 9, versets 9 et 10. Et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte. Et elle deviendra sur les hommes et sur les bêtes des ulcères bourgeonnant en pustules dans tout le pays d'Égypte. Ils prirent donc de la cendre de fournaise, se tinrent devant Pharaon, et Moïse la répandit vers les cieux, et elle devint, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères bourgeonnant en pustules. Ça commence à se ressembler. Alors que le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte physiquement, il est en train de nous montrer que, dans le fond, il va envoyer quelque chose d'équivalent, mais spirituellement. Mais la maladie va être réelle. Alors, le fléau atteint les adorateurs de la bête. Le Seigneur fait correspondre leur maladie spirituelle par une maladie physique douloureuse qui illustre leur démence. Il est évident que ces ulcères affecteront les récoltes, la santé générale et les nécessités et les luxes de la vie. Bien sûr, si vous prenez des hommes, toute la terre devient malade, avec des ulcères malins et douloureux. Vous n'êtes pas sans savoir que ça va avoir d'énormes conséquences sur l'ensemble de l'économie, sur leur propre santé et sur l'ensemble de toute la société. C'est la première chose que le Seigneur envoie. Les versets 3 à 7 ont toutes quelque chose en commun, c'est les eaux. Alors, les deux eaux, il y a deux sortes d'eau qui sont mentionnées. Il y a celui de la mer, dans le verset 3. Dans le verset 3, ça dit « Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint comme le sang d'un mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. » Alors, Dieu se sert ici de la mer comme un instrument de destruction. On sait que la mer est utile aux hommes pour leur nourriture. Combien de fois Il n'y a presque pas une semaine que je ne mange pas de poisson. Il vient d'où? En général, il vient de la mer. Et aussi pour le transport maritime. À partir du moment où qu'on aurait la mer qui se transformerait comme ça et que tout ce qui est vivant dans la mer mourrait, transport maritime, on n'aura pas le goût de s'aventurer sur un endroit comme cela. Alors le Seigneur utilise encore une autre fois une similitude avec une des 10 plaies d'Égypte, celle qui est décrite dans Exode chapitre 7, versets 17 à 21. Ainsi a dit l'Éternel, « À ceci tu sauras que je suis l'Éternel. Voici, je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve se corrompra, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire les eaux du fleuve. Puis l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs fleuves, sur leurs étangs, et tous leurs amas d'eau, et qu'elles deviennent du sang. » Il y aura du sang par tout le pays d'Égypte et dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent donc ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve, mourut, et le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve, et le sang fut par tout le pays. On sait que l'eau du Nil, les Égyptiens, pour eux, l'eau du Nil, c'était un fleuve sacré, et il s'était changé en sang. Alors, c'était supposément, eux, ils attribuaient la vie qu'il y avait en Égypte au fleuve. C'est sûr que le fleuve, l'eau, avait une importance très grande. Dieu voulait leur montrer que leur Dieu, il valait zéro. Parce qu'à partir du moment où si les Égyptiens perçoivent que la vie vient du fleuve et que le Seigneur fait que tout meurt dans le fleuve, et ça c'était relié avec un Dieu qui s'appelait Ra. Alors Dieu est en train de leur montrer que leur Ra, il vaut pas cher, comme on dit. Alors le Seigneur permet, par cette plaie, que cet immense bassin d'eau, la mer, imaginez-vous, tout un bassin, là, se transforme en bassin de nourriture. Ce bassin qui est de nourriture se transforme en bassin de pourriture. Imaginez tout ce qu'il y a dans la mer qui meurt. Que ça va avoir de l'air, que ça va sentir. Ça sera pas beau. Alors, il est bien évident que le transport maritime également, qui est un des usages de la mer, sera affecté et, bien sûr, impactera l'économie mondiale. Alors, la plaie va occasionner très certainement des sérieuses famines, enlève tout ce qui vient de la mer au point de vue de nourriture. Vous allez voir qu'on en perd un gros morceau, comme on dit. Et de très importantes privations, parce que si à partir du moment où que la mer ne sert plus comme moyen de navigation, de transporter les biens d'un pays à l'autre, à quelque part, imaginez qu'est-ce que ça peut faire sur l'ensemble de la population. On n'est peut-être pas si loin de ça, là. Moi, je pense qu'on n'est pas loin, que le Seigneur va envoyer ça. Et quand ça va arriver, là, les hommes, on sera porté à penser, hein, que des jugements aussi sévères, ça amènerait les hommes à s'examiner, à regarder leur position face à Dieu, à confesser leurs péchés, à implorer la miséricorde de Dieu. Le texte nous dit qu'au lieu de faire ça, ça les endurcit, et non seulement ça les endurcit, mais ils blasphèment. C'est terrible. Là, on voit, si quelqu'un va avoir une idée de ce que c'est la corruption du cœur humain, et où ça lit ce passage-là? Après tout ce que Dieu leur envoie, c'est la preuve que peu importe le degré de douleur que le Seigneur peut envoyer aux hommes pour qu'ils se convertissent, ça n'a pas d'effet. Il faut-il être enraciné dans le péché? enraciné pas à peu près. Et la troisième plaie, c'est les fleuves et les sources d'eau. Voyez-vous, c'est bien important de le voir tout à l'heure, l'ordonnée, là, l'ordonnance que Dieu travaille dans un certain ordre. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, qui est, qui était et qui sera saint parce que tu as exercé ces jugements, parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » Et j'en entendis un autre du côté de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Voyez-vous, il est en train d'emmener des jugements, les eaux douces. Y a-t-il quelque chose de plus nécessaire à la vie sur la planète que les eaux douces? Les fleurs, on ne boit pas l'eau de la mer pour de bonnes raisons, parce qu'elle est salée, on ne boit pas ça. Mais si le Seigneur fait en sorte que les eaux douces, les rivières et toutes les sources d'eau sont pourries, puis emmène tous les animaux qu'il y a là-dedans à mourir, à quelque part, les hommes ont un problème sérieux. Puis c'est drôle de voir aussi, c'est la réaction, parce que ça dit, l'ange des eaux qui disait. Autrement dit, l'ange, quand il observe comment le Seigneur agit avec les hommes, et il leur dit pourquoi il leur envoie cette plaie-là, il dit, vous avez répandu le sang des saints. Vous êtes dignes de la punition pour laquelle je vous envoie. Alors, ce jugement est terrible et va, bien entendu, affecter l'humanité entière. Cette plaie, bien sûr, correspond à la première plaie d'Égypte. Alors, si on relirait le passage d'Exode 7, 17 à 21, on voit que l'eau douce, c'est une ressource absolument essentielle à la vie terrestre. Les eaux douces deviennent inutilisables. On a peine à s'imaginer ça, hein, parce qu'on n'a jamais été privé d'eau. Il y a des pays qui, peut-être que ça résonnerait plus dans leurs esprits, parce qu'ils savent c'est quoi. Nous, on connaît pas ça, on connaît pas ça c'est quoi. Mais à partir du moment où qu'on n'aurait plus d'eau à boire, là, on commencera à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, les souffrances humaines que tout ça va amener, ça va être terrible. Et ça va se refléter par différentes choses. Les famines, les maladies, des problèmes économiques, et aussi une multitude de privations de toutes sortes. C'est la rétribution du Dieu juste qui punit les méchants qui ont répandu le sang des saints et des prophètes. Alors, les punitions du Seigneur sont justes parce qu'ils ont fait souffrir son peuple. C'est la loi de la rétribution divine. Si on recule un petit peu dans Apocalypse chapitre 6, on va voir qu'il y avait des êtres humains qui étaient sous l'autel, qui avaient demandé à Dieu vengeance. Et on voit ici que c'est l'exécution par Dieu, une réponse aux prières des hommes. Apocalypse 6, verset 10, ça dit... Les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu étaient sous l'autel et demandaient vengeance. Puis dans Apocalypse, chapitre 8, versets 3 et 4, les prières des saints sur l'autel des parfums étaient montées devant le trône de Dieu. Et maintenant, l'autel répond et proclame son approbation. Et j'entendis l'autel dire, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Les âmes sous l'autel et l'Église militante ont reçu une réponse à leur prière. » Alors, ce qui se passe à la Terre actuellement, là, n'oublions pas que nos prières ont beaucoup plus d'impact qu'on croit. Ça, moi, j'en ai la conviction, c'est extrêmement profond que je crois, mais on en est peu conscient. C'est ça notre problème. On est peu conscient. Moi, je suis convaincu que la prière d'un saint vaut mieux que 10 000 manifestations dans les plus grandes villes avec 1 000 personnes, 2 000 personnes chaque. Croyez-vous ça? Parce que là, tu fais appel à la toute-puissance de Dieu pour juger des choses que tu considères inacceptables. Et c'est beaucoup plus puissant, ça, que quelques manifestations que ce soit que tu voudras des hommes. Moi, j'en ai une conviction profonde. La seule question que ça m'amène, personnellement, si tu dis que tu es si conscient que ça, comment ça se fait que tu ne pries pas plus que ça? Puis je pense que ça nous ramène pas juste à moi, à ma question, à me questionner moi. Je pense que ça devrait nous emmener tous à se questionner. Si on croit que la prière est un moyen si puissant pour que Dieu réponde à nos prières et amène des jugements sur la terre lorsque les hommes les méritent, comment ça se fait qu'on prie si peu? Puis qu'on ne croit pas que Dieu est capable de répondre avec une manière, une prière plus puissante que 10 000 manifestations dans le monde. J'ai la conviction de ça. Mais on dirait qu'on ne le croit pas. On pense que les manifestations vont amener des choses, vont faire changer des choses plus qu'une prière à Dieu. Moi, je dis, pas vrai. Dieu est toujours infiniment plus puissant que quelques moyens que les hommes puissent utiliser. En tout cas, des fois, c'est peut-être bon d'aller devant Dieu et de dire, « Seigneur, montre-moi la force de la prière, montre-moi sa puissance, montre-moi son efficacité, et surtout, inspire-moi d'avoir le goût de prier plus et de prier plus intelligemment et plus sagement. » Je pense. Alors, j'avais le petit bout qui est en italique, en bas de la page 6. Là. C'est vraiment le... c'était Monsieur Bédard qui c'était ses observations sur ce passage-là. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et on terminera, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est François. Et l'autre semaine après, on terminera le chapitre 16. Alors, on va y aller avec ça, on va arrêter là aujourd'hui.